parce que immédiatement vous montrez votre impuissance philosophique. Je dis bien votre impuissance philosophique, vous êtes encore à l'âge embryonnaire, donc vous appuyez sur une autorité.
Je te dis que je ferai un cours pratiquement sur les diverses questions posées, de sorte que la question posée ici, j'y réponds maintenant, mais dorénavant, mais il faut continuer de poser vos questions. Dorénavant, je ferai un cours de réponse aux objections, aux questions, ce qu'on appellera les groupes de lait, viendront ceux qui voudront, ce sera en vrai, on avertira. Dernière semaine peut-être du mois. Alors, on mettra un cours comme ça pour cela. Pourriez-vous préciser la différence entre un principe en philosophie spéculative et en philosophie pratique? Et comment l'être premier se situe par rapport à l'un et à l'autre? Comment atteint-on l'être premier comme source en philosophie pratique? La notion de principe est une notion analogique. Ce n'est surtout pas une notion uniforme. Ce serait affolant. Qu'est-ce que c'est que le principe? Ce au-delà de quoi je ne suis pas allé. Très simple. Vous voyez que c'est négatif. On ne peut pas le définir, c'est négatif. Si vous pouvez aller plus loin, c'est plus un principe pour relativiser. Le propre du principe, c'est d'être simple. Il y a une vie, ce au-delà de quoi je ne peux pas dire. Alors, il y a différents domaines de recherche. Il y a un domaine dans le devenir, il y a un domaine dans l'être, il y a un domaine dans les opérations volontaires. Ce qui est, ce qui devient, ce qui se meurt. Des pistes, hein. Pistes, on a des pistes comme ça, des orientations, des axes de recherche, l'opération volontaire, puis la réflexion sur l'intelligibilité. Alors, dans tous ces rayons-là, dans tous ces axes, alors l'opération volontaire, hein, fatiguer, agir, coopération, des axes. Bon, vous analysez, puisque le principe n'est pas donné a priori. Le principe, on le découvre. Vous ne naissez pas au berceau, vous n'êtes pas né au berceau avec un principe dans votre corps. Vous avez dit, ah, c'est pas un principe. Le principe, c'est quelque chose que l'intelligence découvre au-delà de tout visible. Le principe, c'est la visible. Il y a le visible qui est l'objet d'expériences immédiates. Et l'invisible, c'est nécessairement ce que l'intelligence humaine peut saisir. Ce que notre intelligence peut saisir. Et notre intelligence est faite pour saisir le principe. Pourquoi? Parce que intus lecere, c'est lire de l'intérieur et c'est une lecture en profondeur. Et donc, dans chacun de ces domaines, l'intelligence recherche ce qu'il y a de premier. Et le principe, c'est ce qu'il y a de premier. Alors, vous comprenez bien que ce qu'il y a de premier dans l'ordre de ce qui est, vu du point de vue de l'être, le premier dans l'ordre du devenir, ce qui devient, le premier dans l'ordre de ce qui se meut, c'est analogiquement, c'est tout à fait différent. Ce sont des premiers tout à fait différents. Le premier dans l'ordre du facere, dans l'ordre de l'agir, dans l'ordre de la coopération, dans l'ordre de la réflexion. C'est très très différent. Donc, nous avons tout de suite, hein, j'espère bien que ça vous le saisissez, nous avons tout de suite des principes dans des ordres tout à fait différents. Mais ce qu'il y a de commun, c'est pour ça qu'on peut l'appeler principe, la ratio principi, ce qu'il y a de commun, le commun, le ce qu'il y a de commun dans tous ses principes. C'est-à-dire ce au-delà de quoi je ne puis pas être. Ce qui résiste à l'analyse. Parce que tout ce qu'on peut analyser n'est pas un principe. Tout ce qui est analysable n'est pas un principe. Et le principe, c'est ce qui résiste à l'analyse. Et ce que je découvre comme l'au-delà d'analyse. Donc vous ne pouvez pas toucher. C'est votre intelligence qui saisit. C'est ça qui est très difficile. Parce que c'est là où justement, tout le temps, mais alors vous êtes sûr qu'il dira un principe. Vous ne pouvez pas le montrer. Le principe est évident. Il s'impose à l'intelligence. Il est évident. Un principe, c'est quelque chose d'évident. Parce que je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas l'analyser, c'est au-delà de l'analyse. Vous voyez bien ce fait que le principe, c'est quelque chose qui est au-delà. C'est là qu'on comprend que le principe n'est pas une loi. Bien que, d'une certaine manière, quand il s'agit de ce premier dans l'ordre de l'intelligence, il peut y avoir des axiomes. Ah, est-ce qu'un axiome est un principe? Le principe de non-contradiction, Aristote l'appelle axiome. Le principe de non-contradiction, c'est d'une certaine manière ce au-delà de quoi je ne peux pas aller dans la réflexion d'intelligibilité. Au point de vue critique, dans l'ordre critique, qu'est-ce qu'il y a d'ultime ? Le principe de non-contradiction, l'action de non-contradiction. Alors l'action de non-contradiction, vous connaissez tout ça. Quels sont ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'action de non-contradiction ? Non, est-ce qu'il y en a? Ceux qui le connaissent. Bon, on ne peut pas affirmer en même temps et nier quelque chose qui est le même par rapport au même. Autrement dit, affirmation et négation. Quand c'est une affirmation par rapport à la même réalité sous le même rapport, s'exclut. Le principe de non-contradiction, l'action de non-contradiction, qui est en quelque sorte, vous voyez, la loi. C'est comme une loi. La loi est intelligente. Si vous allez au-delà du principe de non-contradiction, il y a des passage extraordinaire d'Aristote là-dessus, très très intéressant. Si vous allez au-delà du principe de l'innovation, vous ne pouvez plus rien dire. Il n'y a plus de dialogue possible. Parce que dès que vous acceptez que la parole a une signification, vous acceptez le principe de l'innovation. Tout de suite. C'est la détermination qui a une signification. Donc, ça sera même le principe de la signification. De nos mots, de notre langage. Alors je ne peux pas affirmer en temps. Et ça se relève, vous voyez, sur le problème de l'affirmation et de la négation. Mon intelligence affirme, mon intelligence nie. C'est quelque chose de fondamental, ça. Mon intelligence est capable d'affirmer, et toute affirmation va avoir sa négation. Je vous dis, Dieu existe, l'être premier existe. L'être premier existe. L'intelligence peut toujours nier ce qu'elle affirme. Ça ne veut pas dire que quand elle nie, elle est toujours dans la vérité. Ça ne veut pas dire que quand elle affirme, elle est toujours dans la vérité. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que dans le principe de notre tradition, je ne dis pas la possibilité d'affirmer une négation, mais je dis qu'elle ne peut pas en même temps, si vous voulez, affirmer et nier par rapport à la même réalité, sous le même aspect, affirmer. Le même donc ça c'est un action. C'est important parce que c'est de l'ordre. Là, vous comprenez comment il y a un premier dans l'ordre de la réflexion d'intelligibilité. Important de comprendre. Donc, le point de vue du principe, c'est quelque chose que nous découvrons par mode inductif. Nous verrons ce que c'est l'induction. Par mode inductif, c'est C'est l'intelligence qui le découvre. Un au-delà de toute expérience. Un au-delà de toute analyse. Et l'intelligence le découvre comme quelque chose de premier. Cela, au-delà de moi, je ne peux pas être. Donc vous voyez qu'il y a nécessairement des principes divers, puisqu'ils sont analogiques. Le principe de la connaissance spéculative et le principe des connaissances pratiques sont autres. L'analogie, vous savez bien, c'est allo, allo, autre, autre. Et cependant, il y a quelque chose de commun. Ça, c'est propre de la connaissance analogique. Et si nous ne faisons pas grande attention, dès qu'on est un peu fatigué, ou qu'on répète, on tombe dans l'univocité. La répétition est univoque. Et la découverte est analogique. L'intelligence, dans sa vitalité analogique, pourquoi ? Parce qu'elle dépend de la réalité. Tandis que quand vous répétez, vous dépendez d'autorité. Et l'autorité uniformise. Et la réalité, nous nous rencontrons dans l'université. Vous devez comprendre ça. Mon intelligence, quand elle n'est pas assez forte pour découvrir la réalité, c'est sur l'autorité. C'est ma canne de vieillesse. Ou ma canne de jeunesse, hein, ça dépend. Parce qu'au début, on a besoin de s'appuyer sur l'autorité. Mais il faut comprendre que cette s'appuyer sur l'autorité, c'est momentané. Il s'agit de s'appuyer sur la réalité. Que j'expérimente et que je connais. Il faut s'appuyer sur la réalité qui est là. Alors à ce moment-là, l'intelligence découvre son autonomie. Elle est autonome que quand elle s'appuie sur la réalité. Quand elle s'appuie sur l'autorité, elle n'est pas autonome. Et parce qu'elle n'est pas autonome, elle n'est pas elle-même. L'autorité ne fonde pas du tout l'analogie. Ça explique le reste pourquoi l'intelligence, quand elle cherche son autonomie, a peur de l'autorité. L'autorité n'est pas analogique, c'est la réalité qui est analogique et qui permet à l'intelligence d'avoir justement ce point de vue analogique. Donc vous avez cette diversité, vous voyez une très grande diversité, 3, 6, 7, une diversité de 7 millions. Si vous regardez ça attentivement, vous avez une très grande diversité des principes. Alors, il faut distinguer tout de suite principe et cause. Le principe, c'est simplement ce qui est premier au-delà de quoi je ne peux pas le dire. Un principe, c'est uniquement ça. Mais dans un ordre donné, dans l'ordre de l'être, dans l'ordre du devenir, dans l'ordre du vivant, dans l'ordre de l'action, de l'opération volontaire, dans l'ordre de l'intelligibilité. Tous les ordres, vous avez pour y en ajouter un huitième, comme toujours, hein. Dans l'ordre logique. Est-ce que vous avez des principes logiques ? Des raisons que vous avez. Mais des actions aussi, dans l'ordre logique. Ici, c'est critique. Dans l'ordre logique, c'est quoi ? Dans l'énonciation, il y a identité entre le sujet et le tribut. Est-ce que l'universel est un principe ? La logique regarde l'universel. Pour ceux qui ne savent pas. La logique regarde l'universel, c'est une drôle de bête. Il faut découvrir l'universel. Un terme est universel. Anima. C'est universel. C'est attribué à des quantités de choses. Universel générique, universel spécifique, ainsi de suite. C'est toute l'université dans l'universel. L'universel esprit est un principe. L'universel, il implique quelque chose de nécessaire. Les idées de l'ordre de la signification présupposent la signification, mais au sens strict, l'attribution. Quand on vous dit que l'universel, c'est unum ad multa. C'est un vers plusieurs, un vers beaucoup. Est-ce que l'universel est un principe ? Ou est-ce que l'universel est la condition sine qua non pour que le principe existe ? Alors, c'est assez délicat. C'est intéressant de poser la question. Est-ce que l'universel est un principe ou est-ce que l'universel est de fait ce qui est présent en tout principe? Tout principe est universel. Il y a un mode universel. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réel, mais il est énoncé d'une manière universelle. Donc c'est la condition sine qua non pour toute espèce de principe universel. Ce n'est pas un principe. Le principe, ce sera un principe d'identité entre l'attribution et les points de vue du sujet. J'ajoute la logique, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. C'est un art, la logique. C'est un art des arts. C'est pour ça que ça vient comme ça, comme position derrière. Bon, alors vous voyez que tout de suite, le principe, c'est quelque chose d'ultime. Tout compte est principe. Donc, pour connaître ce que c'est qu'un compte, il faut regarder ce que c'est que le principe. Mais tout principe n'est pas cause. Le principe de non-contradiction, il n'est pas cause. Le principe d'identité au point de vue logique, il n'est pas cause. Donc, il y a des principes qui sont dans l'ordre uniquement de l'intelligibilité. Ils ne sont pas causes. La cause, c'est un principe dans la réalité, au niveau de l'être, au niveau du devenir, au niveau de l'opération humaine. Et que veut dire la cause ? Veut dire qu'elle est source d'une réalité qui viendra après. La cause appelle l'effet, tandis que le principe n'appelle pas l'effet. Toute cause est féconde. Tout principe n'est pas nécessairement fécond. Il peut y avoir des principes qui sont féconds et qui ne sont pas féconds. Alors là, c'est la théologie. C'est ce que vous direz en théologie. Le Père est source du Fils, mais il n'est pas cause. Ça, c'est la théologie. C'est autre chose. Au point de vue philosophique, il faut bien regarder le point de vue du principe, parce que dès qu'on est en théologie, vous voyez, on utilise une vision de sagesse. Mais là, c'est pas à partir de là que je comprends ce que c'est un principe, comme disait quelqu'un, je ne sais pas. C'est grâce à la très sainte Trinité, je comprends le principe. Au contraire, grâce à la très sainte Trinité, je pas, c'est pas commun de voir principe et cause. Parce que justement, la cause est exclue, la cause ne pénètre pas dans le sein de la très sainte Trinité, le principe. Et là, on est en face d'un principe. Tout de suite à propos de Dieu. Je n'en vois très différent. Donc, vous voyez bien la différence entre le principe et la cause. La cause fait appel à un effet. Il n'y a pas de cause sans effet. La différence entre le principe. Le principe, c'est que premier. Au-delà de quoi il ne peut pas aller. Toute cause est première, elle est principe. Mais elle est de fait liée à un effet. Et l'effet dépend de la cause. Et l'effet dépend réellement de la cause. Dans l'ordre de l'être, dans l'ordre du venir, dans l'ordre de la vie, dans l'ordre de l'opération vitale, dans l'ordre du facere, dans l'ordre de l'agir, dans l'ordre de la coopération. Vous avez donc là aussi une notion analogique de la cause. Et on va distinguer à l'intérieur des causes, je dis tout de suite pour ceux qui savent pas, on va distinguer à l'intérieur des causes, nous y reviendrons, cause matérielle, cause formelle, cause efficiente. Je ne fais pas ça pour le principe. Je ne dis pas qu'il y a un principe matériel, un principe. Non. Il existe, puisque toute cause est un principe. Alors, au niveau de la cause, il y a une division par le niveau du principe. Ça, c'est très intéressant. Parce que si vous réfléchissez là-dessus, vous comprenez bien la différence entre la cause et le principe. Donc, vous voyez qu'il y a une diversité de causes qui est autre que celle du principe. S'il y a une diversité de la cause autre que celle du principe, ça prouve qu'intervient quelque chose d'autre que le principe. C'est à l'intérieur même du réel que je vais découvrir le point de vue de l'être, le point de vue du devenir, le point de vue du vivant. le point de vue des opérations vitales. Et donc je découvre autre chose. La cause dit quelque chose de plus que le principe. Parce qu'elle est dans la réalité qui existe. Une cause n'est jamais dans l'ordre de la pure intentionnalité, sauf pour Descartes. C'est peut-être là quelque chose qui est très important à noter. Parce que Descartes a voulu transposer la cause dans l'ordre de l'intentionnalité. Vous savez, quand il essaie de prouver l'existence de Dieu à partir de l'intentionnalité, ce que Kant lui a reproché violemment. Kant a raison. Parce que c'est Kant qui a reproché ça violemment à Descartes, l'argument de logique. Et l'argument de logique est venu lorsqu'on a confondu la première principe. Très curieuse. Dans l'ordre de l'intentionnalité, il y a un premier. Dans l'ordre de l'intentionnalité, il y a un premier. Et dans l'ordre de l'intentionnalité, il y a un cause. Au sens fort, il y a un premier. J'espère que ça, vous voyez un tout petit peu que je relis. Pourriez-vous préciser la différence entre un principe en philosophie spéculative et en philosophie pratique? Je dirais que c'est surtout au niveau de la causalité que je vois la différence. Principe du côté spéculatif, oui, c'est parce que c'est le premier dans tel ou tel ordre. Mais au point de vue pratique, c'est le premier dans tel ou tel ordre. C'est évidemment du côté de la causalité qu'on voit beaucoup mieux la différence entre une cause dans l'ordre spéculatif et une cause dans l'ordre pratique. Parce qu'une cause dans l'ordre spéculatif, c'est au niveau de l'être, du venir et du vivant. Tandis que dans l'ordre pratique, c'est l'homme, c'est la volonté. Comment atteint-on d'être premier comme source en philosophie pratique? Alors, vous voyez quelque chose de nouveau. Quand je dis l'être premier et principe, c'est encore une nouvelle manière de regarder principe. Tout à fait autre. Parce que quand je dis que l'être premier est principe, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il est premier dans l'ordre de l'être existant. Tandis que quand je dis ici que je cherche ce qui est premier dans l'ordre de l'analyse de l'être, ce n'est pas existant. Tandis qu'ici, l'exister est premier. Parce que l'être premier, il existe. Je le découvre par son existence, par son exister. Et donc, il est premier dans l'ordre de l'exister. C'est donc un premier qui reste. Reste la réalité. C'est-à-dire la réalité au sens fort. Et bien, quand je dis que l'être premier est principe, je veux dire qu'il est la réalité première. Vous voyez que ce principe est tout autre que tous les autres principes. Et ça, c'est quelqu'un qui peut comprendre. Ce monde physiquement est vrai. Donc, cette réalité première est principe. C'est là, vous voyez, la pauvreté du langage. Notre langage est très bon comparativement à la réalité. C'est la réalité. J'emploie principe pour des choses totalement différentes. Oui, comme il faut être intelligent. L'analogie, c'est le signe d'une intelligence qualitative. C'est pour ça que quand on est fatigué, on retourne dans les négociations. Les vieux chevaux. Et les jeunes tournent à la télé. Alors, ils retournent dans les négociations. Lourdement. Si vous faites deux négociations à partir du principe, ça devient quelque chose d'aberrant. Alors Dieu, c'est le principe de l'ordre de l'intention. Principe. Non. Dieu, c'est le premier principe logique d'identité. Dieu, c'est le premier principe en philosophie. Il est acte. Il n'est pas acte. Et quand je dis que Dieu est acte, je dis quelque chose d'autre que quand je dis que l'acte et principe, c'est-à-dire fin, c'est autre chose. Et c'est là où la difficulté, notre pauvre langage humain, quand il s'agit de faire de la métaphysique, quand il s'agit de faire de la philosophie, notre pauvre langage humain est toujours déficient. ça, il faut le savoir. Et bien obligé d'accepter. On voit là la différence entre la pensée et la parole. Il y a un monde entre les deux. Parce que la pensée est au niveau d'intelligence qui se développe par rapport à la réalité. Tandis que la parole est toujours un signe conventionnel. C'est un signe que l'homme a fabriqué, comme on dit. Pas la réalité, la pensée, c'est la parole. C'est quelque chose qui explique ce que je pense. Alors, si je suis suffisamment éveillé dans mon intelligence, chaque fois que je dis quelque chose, je sais ce que ça signifie. Celui qui le reçoit, je ne sais pas comment il le reçoit. C'est pour ça qu'on dit qu'il est reçu selon les capacités du récipient. Alors, si le récipient est tout petit, le principe devient univoque. Votre intelligence, au point de départ, quand elle commence à faire de la philosophie, elle est terriblement univoque. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps que vous arrivez à être plus intelligent et à découvrir ce que c'est que la véritable intelligence qui pense analogiquement, c'est-à-dire en respectant les niveaux. Je regarde toujours l'homme, mais dans des niveaux très différents. Je regarde l'homme dans son devenir, je regarde l'homme dans son être, je regarde l'homme dans le vivant, je regarde l'homme dans ses opérations. C'est toujours l'homme que je regarde. Très différemment. Donc, quand je parle de Dieu, j'appelle l'être premier comme un premier dans l'ordre de l'être, au sens le plus fort. Il est. Il est donc, il existe. Il existe, il est premier, comme reste. Donc, il est bien principe, puisqu'il est premier. Mais il est principe dans l'ordre de l'exister, de l'être. Il est en même temps cause. Et je découvrirai que le premier être est cause quand je découvre philosophiquement le problème de la création. Alors, on va sur les pattes. C'est ça que nous allons voir. C'est important, mais il comprend le jugement de sagesse. Donc, vous voyez bien, nous allons essayer maintenant de comprendre comment l'être premier est cause, ce qui est un très gros problème. Depuis Kant, c'est un problème qu'il faudrait être très attentif, et faire grande attention à ça. Quand on dit que Dieu, il est, très attentif. Continuer d'affirmer il est, mais en faisant bien comprendre, bien attention que quand je dis il est, ce n'est pas du tout l'affirmation d'un étant, au sens à être dégagé. Ce n'est pas du tout dans l'affirmation d'une réalité complexe, non. C'est une réalité simple, absolument simple. Donc, je vous disais la dernière fois, pour essayer de comprendre ce que représente le jugement de sagesse. Ça, nous devons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce jugement de sagesse. En philosophie, l'apparition de la sophia, de la sagesse, en philosophie. La philosophie n'est pas, dès son point de départ, sagesse. Elle va se dévoiler en sagesse. Va s'expliciter en sagesse. La philosophie est premièrement une analyse. Il faut bien comprendre que l'aspect de l'analyse, c'est l'aspect scientifique. Pas de science sans analyse. Ça, c'est sûr. Dès que vous êtes au niveau d'analyse, vous êtes à un niveau scientifique. Pourquoi ? Parce que c'est la découverte des causes. Or, le propre d'une connaissance scientifique, c'est de connaître par la cause. Donc, il faut l'analyse. Et là, on reconnaît tout de suite un esprit scientifique. Un esprit scientifique, c'est celui qui sait l'éthique. Un esprit non scientifique, c'est celui qui confond, parce qu'il n'analyse pas. Là où il devrait analyser, il analyse pas la vie aujourd'hui. Il confond le nécessaire et l'accidentel, il confond ce qui est premier et ce qui est second. Affectivement, c'est ce que nous faisons. Imaginativement, c'est ce que nous faisons. Nous confondons. Et nous faisons une grosse confusion quand nous ne connaissons pas. Alors, il y a toute cette phase de purification de l'intelligence, qui est la phase de l'analyse. Par l'intelligence, elle essaie de voir clair, c'est-à-dire de découvrir les premiers les principes propres. Une fois que l'intelligence a découvert les principes propres de ce qui est, l'intelligence cherche à se poser la question, existe-t-il un être au-delà de l'homme que j'expérimente? La réalité la plus parfaite que vous expérimentez, c'est l'homme. Et ce privilège d'être la réalité la plus parfaite que vous expérimentez. Vous ne pouvez pas expérimenter une réalité plus parfaite que vous. Ou que l'autre, pas nécessairement vous, mais que l'autre. Vous ne pouvez pas expérimenter une réalité plus parfaite. C'est le chef-d'œuvre de tout ce que vous pouvez regarder. Et ça, nous devons l'admirer. La réalité la plus parfaite. Vous ne pouvez pas expérimenter de réalité aussi parfaite que l'homme. Mais cette réalité d'une complexité invraisemblable. Complexité invraisemblable. Complexité biologique, les biologistes sont là pour nous dire. Complexité psychologique, les psychologues sont là pour nous dire. Complexité dans l'ordre de l'être, la métaphysique est là pour nous dire. Donc il y a une complexité extraordinaire. C'est très intéressant pour parler ça. L'être le plus complexe qui soit. Vous vous posez la question, au terme de toutes les analyses philosophiques, et surtout de l'analyse de la philosophie première, à savoir analyser ce qui est en tant qu'être, vous vous posez la question, est-ce que l'homme est la réalité suprême? Autrement dit, est-ce que l'homme est adéquat à l'être? Qui m'intéresse. Alors, vous voyez, il y a diverses manières d'aboutir à ce problème-là. Est-ce que l'homme est adéquat à l'être? Est-ce que quand je connais l'homme, je connais tout l'être? Est-ce que je peux dire ceci? Vous voyez, est-ce que je peux faire cette équation, l'homme? L'homme, c'est une petite pierre. Hein? C'est-à-dire Jacques. C'est Jean-Pierre, hein? L'homme concret, Jean-Jacques Rousseau. C'est regardez-moi et vous comprendrez ce qu'est l'homme. Ça, d'accord. C'est pour ça qu'il faut toujours le regarder. L'homme égale ce qui est. Égale ce qui est. Est-ce qu'en connaissant l'homme, j'épuise l'être? Alors, vous pouvez tout de suite dire non, parce qu'il y a le champ de Raïssa. Raïssa, en regardant le chat, comment c'est que ce chat existe? J'existe. Alors, l'existence du chat n'est pas la mienne. Parce que le chat peut mourir avant moi, et je ne mourrai pas. Et je peux mourir avant le chat ne mourra pas. C'est mon désespoir. Donc, il y a autre. L'existence du chat, la vache, c'est ou l'existence de la réalité matérielle qui, sur laquelle il y a autre, l'exister de l'homme, l'être de l'homme, l'être à l'homme, selon l'expression si belle d'Aristote, le to einad anthropo, l'être à l'homme. Il lui reste très beau de dire ça. Parce que si on dit d'être à l'homme, ça prouve que l'homme n'est pas l'être. je veux dire l'être au blanc. L'être au blanc, l'être à la vache, l'être au champ. Donc vous voyez que l'être, il est au-delà de cette très grande diversité de ce que vous voyez. L'être, il est dit de multiples manières. Ah, une expression très chère à Aristote, qui est belle. L'être est dit de multiples manières. L'égépal polakos, il est dit de multiples manières. Il est dit de la vache, il est dit du chien, il est dit de l'homme, il est dit de moi. C'est très curieux, ça. C'est très gênant de me perdre dans l'être. Parce que si je me perds dans l'être, vous voyez bien que c'est plus si je suis vache, si je suis chien, si vous me perdez dans l'être. Mais alors, vous ne pouvez pas vous perdre dans l'être parce que l'être n'existe pas en dehors de toutes les autres réalités. Donc, en réalité, vous comprenez que l'être est dit de multiples manières. Si l'être est dit de multiples manières et qu'il est dit de l'homme, je peux dire que l'homme apparaît bien comme la réalité la plus parfaite que j'expérimente, mais il n'est pas adéquat à l'être. S'il était adéquat à l'être, toutes les autres réalités que j'expérimente seraient dépendantes de mon être. Il participerait à l'être de moi. Or, il ne participe pas à l'être de moi. Ils peuvent mourir sans que je le désire. Je peux mourir et que eux continuent d'exister. Donc, je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a une multiplicité d'êtres, une très grande diversité de l'être. Et cette très grande diversité dans l'être, qui a été une certaine limite, montre tout de suite que l'homme n'est pas adéquat à l'être. Ceci exige de moi de me poser la question. Existe-t-il un être premier qui, je ne dis pas, soit égal à l'être que je connais, mais soit premier dans l'ordre de l'être. Vous voyez comment le problème se pose à cause de cette multiplicité de cette unité de l'être. Je suis obligé de me poser, si je suis voyage, je me pose la question, je suis. Comment se fait-il que j'existe plutôt que de ne pas exister? D'abord, ça c'est une question classique qui est très intéressante. C'était la grande question du problème. La grande question, comment se fait-il que j'existe? Je peux vous le demander. Puisque je ne suis pas maître de mon être. Si j'étais maître de mon être, mon voisin n'existerait pas. Je haïrais immédiatement ce qui me gêne. Je m'en vais seul. Si j'étais maître de mon être, je serais seul. Je ne suis pas maître de mon être. Il y a une diversité. Pourquoi j'existe? Et pourquoi je plutôt que ne pas exister? Il y a un moi. Vers le être. Donc, un vertige vers le être. Dans la boisson de la physique, il y a ce vertige vers le être. Tout ça, ce sont des approches qui me posent le problème avec beaucoup de force. Existe-t-il un être au-delà de tous les êtres que je connais, au-delà de tous les autres êtres que j'expérimente? Existe-t-il un être premier? Ça, c'est la grande question. Nous mettons du temps pour y répondre. On va pas le faire avec vous. Mais c'est important. Existe-t-il un être au-delà de tous les êtres humains? Est-ce que je peux découvrir une voie d'accès, non pas à l'invisible des principes, mais à l'invisible tout court, c'est-à-dire à notre point de vue, s'il existe. C'est ça qui est tout à fait particulier, c'est que je suis obligé philosophiquement de partir sans savoir où aller. Philosophiquement, comme Jean-Baptiste, je pars sans savoir où je vais. C'est très juste ça. Là, je le sais un peu dans le sens qu'il y a des traditions religieuses. Les traditions religieuses nous disent qu'il y a un créateur. Là, je le sais, les traditions religieuses. Parce que quand on est dans le noir complet, les opinions religieuses sont très, très précieuses. C'est pour ça qu'il faut quelquefois des crises économiques pour être dans le noir complet, pour que se réveille dans l'homme une nouvelle dimension religieuse. Enfin, je crois. Parce que quand il y a trop de richesses, quand vous êtes en face d'un buffet qui vous donne tout le temps, vous mangez, vous dormir, vous vous réveillez, et tout est encore là, vous recommencez à manger. Parfait. Vous êtes dans l'immanence, c'est parfait, du buffet. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Tandis que quand il n'y a plus rien à manger, marche crève. Hein. Alors à ce moment-là, vous vous demandez, y a-t-il pas quelque chose d'autre? Et se réveille en vous ce qu'il y a de meilleur. Et ça, c'est vrai, je crois que c'est comme ça. Pauvre bête humaine. Hein. Elle a trop de foi, elle est une bête grasse. Elle s'encombre autant de problèmes. Et quand elle est vraiment dans les fêtes, dans la famille, alors elle se pose la question. Elle n'est pas une autre question. Or, les traditions que je ne peux pas nier, je peux les interpréter de multiples manières, mais je ne peux pas nier quelle tradition. Il y a de multiples traditions. Toutes les traditions du jeu sont communes pour parler de la création. Toutes. Ces traditions du jeu me disent qu'il y a un créateur. Je me pose la question au plan philosophique. Est-ce que mon intelligence humaine est capable d'atteindre ce créateur? Est-ce que mon intelligence humaine est capable d'atteindre ce créateur? Et si mon intelligence humaine est capable d'atteindre ce créateur, comment puis-je? Comment puis-je créer de façon telle qu'il m'entende? Vous voyez, la question qui se pose, hein, la question qui est au cœur de toute la philosophie. Je crois que, au point de vue philosophique, fatalement, on aboutit à cette question. Et si on est loyal, on doit reconnaître que c'est la question fondamentale. Est-ce que mon intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence? Capable de dire quelque chose, capable de découvrir, de dévoiler. Alors les réponses sont très multiples. Ça, c'est très intéressant de voir que là, les réponses sont très multiples. Certains disent non, incapable, autant. D'autres disent attendre. D'autres disent attendre. Si je suis chrétien et catholique par-dessus tout, je ne sais pas si je suis un chrétien. Si je suis catholique, je sais qu'il est dit dans l'enseignement catholique que l'intelligence humaine est capable par elle-même de découvrir l'existence de notre monde. Que les traditions religieuses appellent Dieu, que les traditions religieuses appellent le Créateur. Je dois tenir compte de ça si je suis catholique. Je ne suis pas catholique en tant que philosophe. Hein. Faites bien attention. Je ne suis pas catholique en tant que philosophe. Donc, comprenez bien que la foi est libre de toute philosophie. C'est ce qu'on y a dit. C'est très très important. je peux être marxiste et recevoir la foi. Ça existe. Je peux être hegélien et avoir la foi. On ne dit pas, ah, vous êtes hegélien, donc vous ne serez jamais un chrétien parfait. Jamais vous dire ça. Ça ne peut rien être hegélien. Il fallait qu'il soit hegélien pour passer, pour devenir agrégatif, pour devenir agrégé, pour pouvoir. Il fallait passer par ça. Il a trouvé que l'école, ce n'était pas maître. Il n'avait pas trouvé autre chose. C'est le plus grand de tout ce que j'ai vu. Que la foi ne commande pas directement une philosophie. Il ne faut pas mettre de continuité absolue entre les deux. Ça, c'est très très important. La foi, ça vient d'en haut, c'est une lumière divine. La philosophie, elle vient d'en bas, et c'est une lumière humaine. Donc, jamais la philosophie ne remplacera la foi, et jamais la foi détruira tous les déguisements philosophiques de l'homme. Il ne faut pas y avoir. C'est deux niveaux différents. Tout à fait. Et c'est comme deux avions qui sont à deux registres tout à fait différents. L'un vole à plusieurs milliers de mètres en hauteur, l'autre pas plus que 500 mètres. Ils se rencontreront jamais. Sauf s'ils sont en même temps à la descente. Ses amis, l'homme est croyant, l'homme est philosophe. C'est le terrain de descente. Il y a des rencontres qui peuvent être quelquefois tragiques. Et c'est dans l'exercice de la foi que mon intelligence est appliquée. Alors, est-ce que dans l'exercice de ma foi, la philosophie est-elle appliquée ou uniquement l'intelligence? Dans la théologie, la philosophie est appliquée. Dans l'herméneutique et l'exégèse, la philosophie est appliquée. Mais pas directement dans la foi. Parce que la foi fait appel uniquement à l'intelligence. Et donc je peux avoir une intelligence poussée. Il y a un très grand. Je comprendrai à ce moment-là qu'il vaut mieux vivre dans le silence. Je suis entre eux, c'est